Des amours malades, chapitre 3. La cafétéria était bondée comme tous les jours à cette heure-là. Les patients externes qui venaient de faire une prise de sang, les malades que le café décaféiné des services ne satisfaisait pas, et les parents des petits de pédiatrie qui avaient passé une nuit blanche en veillant leurs enfants. Michael et moi prîmes place au bout du long comptoir. L'assistant commanda une crème, puis pêcha un croissant dans un des paniers mis à disposition des clients. Enfin, il chercha dans sa poche un peu de monnaie et alla me procurer au distributeur automatique un petit noir et un sachet de biscuits. Il les posa devant moi, sucra sa boisson, et y trempa la corne du croissant qu'il avait choisi. « Un jour, tu m'expliqueras pourquoi tu préfères cette cochonnerie à un vrai café !» s'exclama-t-il la bouche pleine. « Un jour, Micha, un jour. » Je ne répondis rien. J'ingurgitais un comprimé d'antiacide avec la dernière gorgée de mon café, ce qui eut l'air de faire bondir Michael. « Ah, mes compliments, docteur Mouret, de mieux en mieux. J'espère que tu leur donnes le meilleur conseil à tes patients. Ancien interne des hôpitaux de Paris, éminent gastro-entérologue, et te voilà dans une cafétéria à boire une mixture infâme et à avaler des comprimés à tort et à travers. « Éminent, tu entends ?» Je ne me souvenais plus d'avoir été un jour si éminent. « Mais si, rappelle-toi !» Je n'ai aucune envie de fouiller le passé. « Mais si tu ne fais que cela, t'y vautrais dans le passé. Tu y es tellement embourbé dans le passé que... »« Ça suffit !» exclamai-je à haute voix. Michael me contempla surpris. « Je suis désolé, je ne m'adressais pas à toi, m'excusai-je tendu. « Et ça devrait me rassurer ? Avec qui parlais-tu, je peux savoir ?»« Avec moi-même. »« Merveilleux ! Eh bien... » « Tu devrais te traiter un peu mieux, » suggéra Michael sans sourire. « Tu te réponds sur un ton épouvantable. Vous n'avez pas l'air de vous aimer beaucoup, toi et toi, ces temps-ci. » Je ne pus m'empêcher de sourire aux mots de Michael, qui me regardait d'un air préoccupé. J'étais arrivée de Paris 2 ans auparavant, laissant, il est vrai, une carrière qui aurait pu devenir très intéressante, mais qui ne m'attirait plus. J'avais d'emblée apprécié de travailler avec Michael, mais nous n'avions alors que de très respectueux rapports de travail. Un après-midi, il m'avait prié de l'aider à préparer un rapport que le patron lui avait demandé et qu'il devait présenter la semaine suivante. Je le rejoignis chez lui après avoir dîné à la maison. Son appartement était d'une propreté irréprochable et l'ordre qui y régnait a été fait pour me plaire. J'ai toujours été très maniaque. « Tu es devenu excessivement maniaque, c'est différent !» Michael m'offrit à boire, je refusai et nous nous mîmes à travailler. Nous étions tellement absorbés que nous ne perçûmes pas la sonnerie du téléphone. Le répondeur se déclencha et la voix d'un jeune homme se fit entendre. « Salut, mon bel étalon! Pourquoi ne réponds-tu pas ? J'ai tant envie de toi, je ne pense qu'à la nuit dernière. Je voudrais encore sentir ta grosse... » Michael s'était levé lentement et s'était dirigé vers le petit meuble où était installé le téléphone. Il coupa l'enregistrement et me fixa. Je rougis violemment et ma rougeur augmenta encore, se nourrissant de la honte que j'avais à devenir écarlate. Toutefois, je ne baissai pas les yeux. « Voilà, tu sais tout, » prononça Michael doucement. « Cela semble t'horrifier, » se méprit-il. Il me regardait d'un air mi-provocateur, mi-curieux, en penchant légèrement la tête. « Tu te trompes, » répondis-je vivement. « Le fait que tu sois homosexuel m'indiffère. Seulement, je déteste me sentir un vulgaire voyeur. L'intimité de chacun de nous devrait rester telle, chacun sa vie. Et ses fantômes !» Michael reprit sa place en face de moi, me posa une main sur le bras et murmura « C'est gentil ce que tu dis. Merci. » 2 jours plus tard, Michael renouvela son invitation, car ce rapport se révélait plus difficile que prévu. Et, disait-il, il ne s'en sortait pas. Nous eûmes d'énormes problèmes à trouver une place pour nous garer, car Michael habitait en centre-ville et nous dûmes marcher un bon bout de chemin pour rejoindre l'immeuble où il vivait. Nous suivîmes la Loire pendant un moment, mais fûmes surprises à mi-chemin par un de ces orages estivaux, violents et éphémères. Il nous trempa jusqu'aux os. Nous rions comme des gamins en pénétrant dans le hall. Arrivé chez Michael, ce dernier me dit qu'il allait se changer. Il me lança une serviette de toilette et un de ses t-shirts en m'invitant à me sécher. J'ôtai mes lunettes qui étaient tellement couvertes d'eau et de buée qu'elles ne m'étaient plus d'aucun secours. Je frictionnai mes cheveux, desquels dégoulinait l'eau de l'orage. J'essuyai ma poitrine et mon dos, puis je levai les bras sur lesquels j'avais enfilé le t-shirt bleu pâle prêté par Michael. J'allais l'enfiler quand je sentis sur mon dos les doigts du jeune médecin. Je me bloquai, les mains en l'air. Je ne sais pourquoi, je fermai les yeux, jouissant de la chaleur émanant du toucher délicat. Il suivait les chemins imprimés sur ma peau. Puis la route porta à mon flanc, remonta le long de mes côtes. Les dessins s'arrêtaient là, mais les doigts curieux en découvrirent un autre, plus petit, moins terrifiant, une étoile auprès du mamelon gauche. Ils en tracèrent les contours, si légèrement qu'un instant je crus avoir imaginé ce frôlement. J'étais incapable de bouger, surpris plus par le fait d'apprécier ces caresses que par les caresses elles-mêmes. Les doigts reprirent leur parcours et terminèrent sur mes lèvres. Ils en esquissèrent le dessin, puis je sentis le souffle léger de Michael sur mon visage. J'attendais avec une impatience curieuse ce qui allait arriver. Michael posa ses lèvres au coin des miennes. Un papillon, l'idée d'un baiser, une présence évanescente. Je ne sais pourquoi je fus cueillie par l'envie irrésistible de répondre à ce baiser, mais Michael s'éloigna. J'ouvrais les yeux décontenancés. Habille-toi, me fit-il d'une voix rauque. Je vis sans parler et replacer mes lunettes sur mon nez. Pourquoi t'es-tu arrêté? Murmurai-je, étonné par mon aplomb. J'étais légèrement essoufflé. Tu n'es pas gay. Pourquoi as-tu commencé alors? Répliquai-je avec une nuance d'irritation dans la voix. J'avais l'impression que Michael avait joué avec moi et cela me déplaisait infiniment. Je n'ai pas su résister, je suis navrée. Je sais que tu n'es pas gay, répéta-t-il. Pourquoi avais-je envie que tu continues alors? Demandai-je d'une voix inaudible. Vraiment? J'acquiesçai. Je me sentais terriblement seule à présent, et je réprimais une envie de pleurer. C'était ridicule. J'avais été mariée pendant plus de 20 ans, et jamais je n'avais regardé un homme en pensant qu'il pourrait me toucher ou m'embrasser de cette façon. Ce soir-là, je suis certain que si Michael n'avait pas arrêté ses caresses, nous aurions... Toi? Au lit? Ah, j'aurais voulu voir ça! Je ne ressentais pas une telle envie en moi depuis très longtemps, après la mort de... De qui? Tu as oublié son prénom? Après sa mort, je n'avais plus eu aucun rapport sexuel. Vraiment? Et personne, homme ou femme, n'avait su créer en moi cette confusion. J'avais envie de sentir à nouveau la chaleur de ses mains, de ses baisers, pouvoir aimer à nouveau, pouvoir être aimé une fois encore, s'abandonner, oh, s'abandonner. Être aimé, s'abandonner, oh, tu dérailles, mon pauvre Alexandre. Je me mordis les lèvres. Mon angoisse devait être palpable, car Michael me regarda inquiet et me demanda si j'allais bien. Non, je n'allais pas bien du tout. Si, si, pas de problème. Tu mens mal. « Mais que dit-il, Alexandre, si tu es le roi du mensonge ?»« Je ne sais pas si j'arriverai à travailler maintenant. Tu m'as fait perdre la concentration, tentai-je de plaisanter. »« Écoute, Alexandre, » fit Michael, en frôlant ma joue. « Je ne me suis jamais comporté de cette façon. Je sais pertinemment qu'entre nous, rien n'est possible. Je veux que nous devenions amis, pas simples collègues. Je suis convaincu que tu ne refuseras pas mon amitié. Tu en as besoin, et moi aussi, » ajouta-t-il. Laissons nos sentiments s'exprimer librement. Laisse-moi te toucher ou t'embrasser. Je ne me permettrai rien d'autre, je te le promets. Comporte-toi comme tu le désires, sachant simplement que nous n'irons pas plus loin que ces simples contacts. Une amitié entre hommes avec la familiarité qu'ont les femmes lorsqu'elles sont amies. Tu crois que c'est possible? Une amitié? Pas plus qu'une maîtresse, je n'avais un ami. Je vivais en reclus du sentiment, m'autorisant la tendresse seulement quand elle était adressée à mon fils ou à mon petit-fils. Un ami. C'est dangereux, Alexandre. Nous devînmes amis intimes. Pas si intimes que cela, ne raconte pas de blagues. Une intimité rassurante. Il avait ses amants dont il me parlait parfois. J'avais... Tu n'avais rien! Je trouvais près de lui cette attention dont j'avais un besoin indicible. Je me sentais parfois un voleur. J'avais l'impression d'une relation à sens unique. J'étais l'éponge qui se trempait à la source de Michael, un vampire qui suçait avidement les sentiments nourriciers sans restituer une goutte de ce que lui dispensait si généreusement. Michael ne se plaignait jamais de mon indifférence ou de ma froideur. À dire la vérité, je n'étais ni froid ni indifférent lorsque j'étais à ses côtés. Il était le seul, à part Quentin et Laurent, qui me voyait exprimer un quelconque sentiment. Dans le service, j'étais taxé par le personnel de froideur, de dureté. Ce n'était pas un secret. Les infirmières savaient qu'elles pouvaient me demander n'importe quoi au niveau professionnel. Je ne refusais jamais une aide, un renseignement, une explication. Mais je ne me laissais jamais prendre dans une de ces conversations personnelles ou dans des discussions qui pouvaient demander un avis trop intime. Mes patients m'appréciaient, du moins, en avais-je l'impression, mais je n'avais pas avec eux ce comportement amical que pouvait adopter Michael à certains moments. Ce n'était pas la peur de créer des liens qui pouvaient se rompre avec le départ ou la mort du malade. C'était, je pense, seulement un trait de mon caractère qui risquait de blesser qui s'arrêtait aux apparences. Et qui va outre ses apparences? À qui permets-tu d'approcher? Je crois que Micha était convaincu du fait que je pouvais donner plus et qu'il attendait patiemment le jour où finalement j'aurais accepté de rompre le carcan qui m'emprisonnait. Sincèrement, je n'avais pas sa foi. Mais alors, tu le sais que tu es un condamné à perpétuité. Michael me secoua car j'étais perdue dans mes pensées et je fixais un cendrier posé sur le comptoir sans rien voir ni rien entendre de ce qui se passait autour de moi. Un cendrier, très significatif, Alexandre. Tu peux aussi plonger dedans tant que tu y es. C'est ta place, un petit tas de matière toxique qui s'évanouit au premier souffle d'air. C'est tout à fait toi. Il est tard, il faut que nous y allions. Nous prîmes les escaliers pour remonter dans le service, car notre joie pour la naissance du petit David ne fait exprimer d'une façon quelconque, et elle explosa dans la vitesse avec laquelle nous gravîmes les 4 étages. Comme ce fameux jour d'orage qui me valut les attentions particulières de Michael, nous arrivâmes au but avec des rires de gamins. Nous nous appuyâmes côte à côte, le dos au mur, pour reprendre notre souffle, et tout comme ce jour-là, Micha ne put s'empêcher d'exprimer ses sentiments à sa manière. Il prit ma main et la baisa. Je la lui abandonnais car, comme à chaque fois qu'il me touchait, j'éprouvais une paix que je ne savais trouver nulle part ailleurs. « Oh bah tu ne cherches pas beaucoup !» Puis, entendant des voix dans l'escalier, nous nous séparâmes. Michael poussa la porte du service et me laissa passer, les yeux remplis de sourires. Je me refaisais toujours à analyser ce que je ressentais auprès de mon assistant, à part cette paix de l'âme et du corps dont il me comblait. Je ne tenais pas à savoir si je faisais bien ou mal, si une amitié de ce genre devait être qualifiée de saine, de normale, ou d'un autre adjectif plus approprié, si elle me portait sur un chemin que je regretterais, si elle occultait un problème que je ne voulais pas résoudre. Un problème? Oh, Alexandre, quel euphémisme! Ce dont tu souffres n'est pas un problème, c'est l'enfer! J'étais plus inquiet pour Micha, car je craignais qu'il n'attende de moi quelque chose qui n'était pas en mon pouvoir. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ta peau. Jouer les altruistes ne t'a jamais réussi.